Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud traité Baba Batra, page 113, Daf Kuf Yud Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Tanya Ida. Et l'autre braïta, elle commence comme ça. Melotisov Nahala Mimate El Mate Acher. Par déduction, cette braïta l'attribue Besibat Abaral à Katoum Daber. La braïta se demande Ata Omea Besibat Abaral. Est-ce que ça parle vraiment du détournement occasionné par l'héritage du père? O Enoela Besibat Aben. Peut-être que c'est Asibat Aben. N'en parle pas souk. Que chez Omer, comme le premier passage qui dit « L'otisov nachala livni Israël maté el maté » que celui-là, il est évident qu'il parle de l'héritage du fils, « Haré, hasabat, haben, amour ». Le détournement occasionné par l'héritage du fils, il est explicite. « Ha'a mani mekayem » Alors qu'est-ce que je fais du deuxième passage de la paracha ?« L'otisov nachala livni maté el maté acher » Par déduction, je l'attribue Besibat Abaal à Katoum Daber. Alors la Gemara s'étonne, découle Alma, d'après tout le monde, d'après les deux Braïtot, Miat, au moins elles sont d'accord que Imate El Mate Acher, le deuxième Pasouk, Besibat Abaal à Katoum Daber. Elles sont quand même d'accord pour attribuer ce Pasouk-là au détournement occasionné par l'héritage du mari. Alors la Gemara demande Maïmashma, d'où est-ce que on peut comprendre que ce passouk, il parle plus particulièrement de l'héritage du mari. Siman Ama, un rab qui s'appelle Siman, il dit au nom de Rababa Rav Shila, que Amarkal Basouk dit Ish, ki Ish ben Halato yidbeku matot bene Yisrael. Chacun devra rester attaché à sa terre. Et le fait qu'on utilise le terme Ish, ça veut dire que Ish, c'est-à-dire le Baal, le mari devra faire attention, benachalato idbak, à rester attaché à sa terre et pas aller prendre pour épouse une fille héritière d'une autre tribu. Alors la Gemara, elle refute cette explication, elle dit travaillou, ish ktiv behu. Dans les deux psukim, c'est écrit Ish. Et là, alors, pourquoi est-ce que les deux braïtot attribuent le deuxième pasouk au détournement occasionné par l'héritage du mari? Marav Nachman, Baritzrak, Amarkra, parce que le pasouk dit Yidbeku, comme on a dit précédemment, Ki Ish Benahato Yidbeku Matot Ben Israël. Comme le terme Yidbeku, c'est un terme qu'on retrouve pour parler de l'union de l'homme et de la femme, comme c'est écrit Davak Beishto. C'est pourquoi les deux braïtot veulent comprendre que Yidbeku, ça veut dire que chacun doit veiller à rester à l'intérieur de sa tribu, de par le mariage, pour éviter que, de par le mariage, il y ait transfert de propriété d'une tribu à l'autre. Et là aussi, la Gemara s'étonne, elle dit, mais travaille où Yidbeku, Ktiveu? Dans les deux psukim, c'est écrit le terme Yidbeku. Alors pourquoi attribuer plus le deuxième au détournement occasionné par le mari que le premier pasouk? Et la marava. Rava, il explique finalement, Amarkra Yidbeku Matot, dans le deuxième pasouk, c'est écrit que chacun devra veiller à ce que les tribus s'allient l'une à l'autre de telle sorte qu'il n'y ait pas de transfert de propriété d'une tribu à l'autre. Et donc on parle du transfert par l'union, Yidbeku Matot, et pas par naissance. Ravashi, lui, il explique autrement, il dit Amar Kra, dans le deuxième passage, c'est écrit Mimate el Mate Acher. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas transfert d'une tribu à l'autre. Or, qui est-ce qui est vraiment une autre tribu? Forcément, la tribu du mari, elle peut être complètement différente de celle de la femme. Alors que l'enfant, il ne convient pas de dire qu'il est d'une autre tribu, puisqu'il est aussi de la tribu de sa mère, ce qu'il a du sang de sa mère. Nous trouvons actuellement Daf Kuf Yud Gimel Amud Alef, la 15e ligne à partir du haut. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yanaï, Amar Rabbi Umatuba, Mishmei Rabbi Yoshua ben Korcha, il y en a qui penchent pour dire que l'auteur de ce qui suit, c'est Rabbi Yoshua ben Korcha. Minaïn, d'où est-ce qu'on apprend de la Torah le Baal, que le mari, c'est Eno Notel Beraoui, il n'hérite pas de sa femme, Minaraoui, ce qu'il était prévu qu'elle hérite, mais qu'elle n'a pas eu de son vivant, puisqu'elle est décédée avant la personne qui lui fait hériter. Et bien que, en fait, elle hérite dans la tombe, mais cet héritage qu'elle reçoit dans la tombe, elle le passe à ses héritiers, c'est-à-dire son fils, s'il en a un, ou sa fille, bien ça n'a pas d'enfant, alors à son père, s'il n'y a pas de père, alors à son frère, et ainsi de suite, mais pas à son mari. Parce que le mari n'hérite que des biens que la femme, elle possède au moment où elle décède. C'est ce qu'on appelle mourzak, ce qu'on tient au moment du décès. Et donc, d'où est-ce qu'on apprend ça de la Torah ? Shenema, ce qu'il est dit, Usguv holid et Yair. Usguv, il a enfanté Yair, Vahilo Esrim Shosharim, il avait 23 villes, Beretz Gilad, dans le pays de Gilad, et comme il semble de ce pasouk que le fils Yair, il avait ces 23 villes, mais des villes qui n'appartenaient pas à son père avant. Alors la Gemara demande Minaïn, de Yair, d'où est-ce que Yair il peut avoir des propriétés chez Lo Hayalo Isguv? Il n'avait pas reçu de son père Isguv. Et là, alors, Malamed, il faut croire que ça vient d'enseigner chez Nassas Isguv Isha. Isguv, il a épousé une femme, la mère de Yair, Umeta Bachaye Morishéa. Et elle est morte du vivant des personnes qui devaient lui faire hériter, par exemple son père ou sa mère, ou Metou Moroucher. Ensuite, son père et sa mère sont morts. Mais Yarcha, Yair. Et c'est Yair qui a hérité sa mère, qui elle-même a hérité dans la tombe les biens de son père et de sa mère. Et ce n'est pas ce gouv, le mari, qui a hérité, puisque c'était des biens qui étaient raouilles. Il était prévu qu'elle hérite, mais en fait, elle est morte avant. Et c'est pourquoi ce sont ses autres héritiers, en l'occurrence ici, Yair, son fils, qui a hérité les biens de ses grands-parents maternels par le biais de sa mère dans la tombe. Parce que le fils, lui, il hérite même de ce qui est Raoul, contrairement au mari qui n'hérite que ce qui est Mourzak. Bon, mais la Gemara dit qu'il existe un autre pasouk d'où on peut apprendre cet enseignement. Elazar ben Aaron met. Donc Elazar, il est mort. Vaïkberu Oto, on l'a enterré. Megivat Pinchas beno, dans la vallée qui appartenait à son fils Pinchas. Là aussi, on se demande, Minaïn le Pinchas, mais d'où est-ce que Pinchas il pouvait avoir quelque chose chez le Yalo ou le Lazar, qui n'était pas avant lui à son père? Melamed. De là, on apprend, chez Nassa et Lazar, que Lazar il a épousé Isha, ou Meta, Bechaye Morisha, et qu'elle est morte, vivant de ce qu'il veut lui faire hériter. Umetu Morishéa, ensuite ceux qui devaient lui faire hériter sont morts, Yersha Pinchas, et c'est son fils Pinchas qui a hérité ce que sa mère a hérité dans la tombe. C'est pourquoi Pinchas, il a pu avoir une propriété que son père n'a pas eue, puisque son père ne pouvait pas hériter sa femme, qui est la mère de Pinchas, concernant des biens qui étaient raouilles, qui était prévu, mais qu'elle n'a pas hérité de son vivant. Et la Gemara demande Maï Vomer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux sources pour nous apprendre le même enseignement? La Gemara répond, Chitema, si tu veux refuter le premier pasuk en disant Yahir Dehava Nasib Iteta Umeta. Peut-être que c'est Yahir qui lui avait épousé une femme qui était héritière et qui est morte, et c'est en tant que mari, Veyarta, qu'il l'a hérité. Et ça explique pourquoi est-ce que Yahir, il a pu avoir une propriété qui n'avait pas appartenu à son père, Talmud Lomar. C'est pourquoi la Torah nous enseigne le deuxième pasuk, la deuxième source, Ve'elazar ben Aharon met Chitema, si tu veux dire Enaflale Bizde Haramim. Là aussi, ce n'est pas une preuve, parce que peut-être que Pinchas, comme Cohen, il a pu recevoir des dons que les Israël offrent au Beth Amikdash. Et ces dons, il en était propriétaire lui, sans que son père les ait possédés avant. C'est pourquoi le pasuk précise Amarkra Beno. On a enterré Elazar dans la vallée de Pinchas Beno, de son fils Pinchas. On sait très bien que Pinchas, c'est le fils d'Elazar. Pourquoi le préciser ici? C'est pour me dire que cette vallée, Pinchas, il l'a eu parce que c'était son fils. Que son fils, il avait le droit d'hériter ce qui est Raoul, alors que lui, Elazar, comme mari, n'avait pas le droit à l'héritage, parce que sa femme, elle a reçu dans la tombe de ses parents ou de ses frères. On vient maintenant à la Mishnah. On avait dit que Bnei Achot, les neveux, ils héritent de l'oncle par le biais de leur mère, puisque la sœur elle hérite de son frère et ensuite elle fait héritage de ses enfants. Par contre, Enan Manchilim, il ne faut pas ses neveux hériter à leur oncle, puisque c'est un oncle maternel et que la mère n'hérite pas de ses enfants. Alors, l'Agmara a fait remarquer, Tana Bnei Achot, l'auteur de la Mishnah, il a parlé des neveux qui héritent de leur oncle maternel et qui ne lui font pas hériter. Velo Bnot Achot. Le Tana n'a pas parlé des nièces.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Maintenant la page. Alors il me demande le Maïl Chata. Pour quel enseignement le Tana il a parlé plus des neveux que des nièces, alors qu'on sait bien que les nièces elles ont exactement le même statut que les neveux, c'est-à-dire que elles vont hériter de leur oncle maternel et par contre elles ne lui font pas hériter. Et l'Agma répond le Kadem, pour nous enseigner la préséance que les neveux ils ont sur leur sœur. Que comme on a vu que le fils, il hérite tout en présence de la fille, le neveu également, il hérite tout en présence de la nièce. D'Etani, ainsi que l'enseigne Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, Kame et de Ravuna devant Ravuna. Veyrach, qui est écrit tout à la fin de la paracha, il comporte un vav qui semble superflu. Et ce vav superflu, on le retrouve à tous les stades des héritiers. Ishkiamut ou Benenlo, ve avartem narzovito, le vav semble en trop, ve imenobat unatatem et nahato lechav, ve imenohach unatatem et Nahalato l'Ariaviv. Ces différents vaves, ils viennent nous faire comprendre Makish, Yerusha, Shenia, Yerusha, Rishona, qu'il faut comparer l'héritage au deuxième degré avec l'héritage au premier degré. Ma Yerusha, Rishona, de même que l'héritage au premier degré, c'est-à-dire l'héritage des enfants par rapport aux parents. Ben Kodem le Bat. Le fils précède la fille. En tout héritage, en présence de la fille, comme on a appris, Ishkiamut uven enlo, ve'aravartem et nahalato levito. À ce moment-là, vous ferez passer l'héritage de la fille. Mais s'il y a un garçon, c'est le garçon qui prend tout. Afirushash nia, de même, l'héritage dans les degrés suivant au deuxième ou troisième degré de la paracha, Ben Kodem le Bat, c'est le fils qui précède la fille. Rabban explique que Yerusha Shnia, ça parle de l'héritage du frère. Les Tosfot, eux, expliquent que Yerusha Shnia, ça parle plutôt de la deuxième génération, c'est-à-dire des petits-enfants, toujours par rapport aux parents. Comme on a déduit plus haut, Ishki Amut Uven Enlo, le N, il y a un Yud en trop, alors on apprend Aïn, regarde s'il n'y a pas une descendance qui va au-delà du fils, c'est-à-dire un petit-fils ou un arrière-petit-fils, que à ce moment-là, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils qui hérite. Et comme pour tous les héritiers, la baracha, c'est le garçon qui précède la fille, pour les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants également, ce sera le garçon, donc le petit-fils, qui héritera tout en présence d'une petite fille, ou bien même s'il y a un arrière-petit-fils et une arrière-petite-fille, c'est l'arrière-petit-fils qui héritera tout au détriment de l'arrière-petite-fille. C'est pourquoi, d'après le soit, on comprend mieux comment est-ce que on aboutit à ce que le neveu, il précède la nièce dans l'héritage de leur oncle. Puisque la Yerusha Shnia en question, ça parle des descendants, des héritiers qui sont mentionnés dans la paracha, c'est-à-dire les descendants du fils et la fille, les descendants du frère, là on retrouve le neveu, et ainsi de suite. On passe maintenant au sujet suivant. Tani, Rabba Bar Hanina, il a enseigné Kamed Rav Nachman devant Rav Nachman. Pasuk dit, Vaya Bayom Anahilo et Banav, ce sera le jour où le père, il répartira son héritage à ses enfants. Et l'auteur de la Brita s'étonne. Pourquoi c'est écrit Bayom? On aurait pu dire Vaya Ban Chilo et Banav. La Brita répond Bayom Atam Apil Nachalot. C'est dans la journée qu'on fixe les héritages. Vei Atam Apil Nachalot Balayla et pas la nuit. Alors Amarle Abaye, Abaye, il a dit à Rabba Bar Hanina qui a rapporté cette Brita. Et là, mais attends, mais alors les shrib imama, si on meurt dans la journée, ou les RT les balé, c'est lui que ses enfants héritent. Et man des shrib velilia, l'oy RT les bané, celui qui meurt la nuit, ses enfants l'héritent pas. Dilma, ah bah, il explique peut-être, din nahalotka amat. Tu veux parler des jugements à prononcer concernant les héritages. Et voilà ce que tu veux nous apprendre. Vaya beyom anahilo. Ce sera lorsque il y a des problèmes d'héritage à régler. Yom, c'est dans la journée qu'il faut le faire. Et pourquoi pas la nuit? Parce que les jugements se font le jour et pas la nuit. Alors on peut se demander qu'est-ce que on a appris de ce pasouk. Parce que de toute façon, pour n'importe quel problème d'argent, pour que la solution apportée soit contraignante, il faut qu'elle soit traitée par un tribunal compétent de 3 dayanim et le jour, bien sûr, pour tous les problèmes d'argent. Donc, y compris les problèmes d'héritage. Le Rajban explique que le chidouche, ici, c'est que même si le partage d'un héritage, en fait, c'est pas un véritable problème d'argent. C'est un simple partage de biens comme ces associés qui partagent leurs avoirs. Et un partage de biens, ça ne nécessite pas un tribunal. Et donc, pour l'héritage aussi, on aurait pu estimer que si le partage des biens hérités, il a été fait entre privés, il est contraignant et irréversible. C'est pourquoi la Torah nous a enseigné que le partage, il est irréversible seulement s'il a été tranché par un tribunal compétent. Netanya. Ainsi que, on peut le voir dans la Braïta qui suit, Vahita, Livne, Israël, Hokat, Mishpat, à la fin de la paracha concernant l'héritage, la Torah a conclu, elle dit, ce sera une loi mishpat, de jugement, qui aura cours pour toutes les générations. Hora kol haparasha kula liyot din. La Bretagne nous explique que le terme mishpat, il vient nous indiquer qu'il faut considérer tout le partage de l'héritage comme un mishpat, comme un din. Le Rashbam, il fait remarquer que les deux psukim, ils ont l'air de faire double emploi, beyom. Ça veut dire que ça doit être fait seulement le jour, comme un jugement. Et chukat mishpat, ça veut dire aussi que c'est un jugement. Il répond que beyom anachloet banav, comme ça parle seulement des fils qui héritent des parents, on aurait pu croire que seulement le partage des fils, c'est à considérer comme un jugement, à trancher par trois dayanim et le jour, mais pas les autres héritages. Pourquoi la Torah dit chukat mishpat pour tous les cas d'héritage de la paracha? Uchdera v'Yehuda, comme on peut voir dans les propos de Rav Yehuda. Amar v'Yehuda, Rav Yehuda, il a dit shlosha shenichnasu levaker et ha'ole, trois personnes qui vont rendre visite à un malade, et pendant leur visite, le malade mourant, il procède au partage de ses biens. Ratsu Kodvin, si ils le veulent, ils peuvent écrire un témoignage. Ratsu Osimdin, s'ils veulent, ils peuvent procéder aux décisions de justice qui serviront à réaliser les volontés du mourant. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du partage classique d'un héritage après la mort de celui qui fait hériter. Il s'agit plutôt ici de l'exécution des dernières volontés d'un mourant, mais on sait que, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, dont la vie est retenue par la halakha, celui qui fait hériter, il a la possibilité de moduler son héritage selon ses volontés, comme le passage dit Vaya Beyom Han Hiloet Banav, où on apprend que chaque homme il a la possibilité de donner plus à l'un de ses héritiers ou de donner moins à l'autre, ou même de donner tout son héritage à un seul de ses héritiers. Et donc il ressort des propos de Rav Yehuda que l'application des dernières volontés d'une personne qui en fait le partage de son héritage nécessite, pour que ses décisions soient sans appel, irréversibles et contraignantes, la présence ou la participation de trois dayanim. Mais ce point que le partage doit se faire devant trois dayanim, c'est un point qui bien sûr est accessoire dans les propos de Rav Yehuda, parce que son but c'est essentiellement de nous apprendre que trois personnes qui ont assisté à un événement, ils peuvent tirer les conclusions et les applications de justice de cet événement sans qu'on ait besoin de faire une déposition de témoins devant eux. Et comme ces trois personnages, ici, ils ont assisté aux dernières volontés du mourant, ils peuvent appliquer toutes les décisions de justice sans qu'on ait besoin de faire un témoignage officiel devant eux. D'autre part, d'après le Rashbam, on apprend également que les mêmes personnes, elles peuvent choisir le rôle qui leur convient, soit celui de servir de témoin, c'est-à-dire de consigner par écrit ce à quoi ils ont assisté, pour que ça puisse servir ultérieurement à un autre tribunal, ou s'ils le veulent, ils peuvent eux-mêmes statuer comme juges concernant ces événements auxquels ils assistent. Et on ne dira pas qu'il y a ici une infraction à la règle qui veut que on ne soit pas en même temps témoin et juge. En ed naase dayan. Puisque, au contraire, on dira ici que s'ils ont choisi d'être juges, ils n'ont pas été témoins. Ce sont les événements qu'ils ont vus en direct qui ont servi de témoignage à leur décision de justice. Amar Rav Chazda, il a ajouté, Lo shanu, Est-ce qu'on a enseigné que ils peuvent choisir d'être témoins ou juges? Ça n'est que Ela Beyom. Si les dernières volontés du mourant sont dictées dans la journée.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.